explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Le 18 septembre dernier, dans le port de Concarneau, sous les applaudissements, le Wai faisait son grand retour. Ce voilier était parti 4 ans plus tôt pour un long voyage à travers l'Atlantique, l'océan Arctique et le Pacifique. À la tête de cette expédition, baptisée Under the Pole 3, un couple de plongeurs passionnés, Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou. Accompagnés de leurs deux jeunes enfants, ils ont pris la mer pour mener en famille une véritable aventure scientifique dans la lignée de celle du commandant Cousteau. Tout au long de leur périple, des équipes de chercheurs se sont succédées à bord de leur bateau. Objectif de cette expédition, étudier les formes de vie qui peuplent les océans dans une zone crépusculaire encore très mal connue, située entre 30 et 150 mètres sous la surface. Dans les mers gelées de l'Arctique, nos explorateurs se sont intéressés aux organismes fluorescents, tandis que dans les eaux chaudes de la Polynésie, ils ont réalisé près de 1000 plongées pour étudier les coraux profonds. Ils ont aussi vécu sous la mer, dans une capsule d'observation qu'ils avaient imaginée et construite. Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou racontent ces 4 années d'aventure et de découverte sous-marine dans un très beau livre alliant texte et photos intitulé « Entre deux mondes » qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Ulmer. Cet après-midi, ils se replongent avec nous dans cette grande épopée scientifique et familiale qui vient tout juste de s'achever. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier, préparée par Claire Tesser, avec à la technique Fabrice Desmond. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tu peux me préciser, là je fais tribord tout et après je reviens à bâbord.
Pour le moment, peut-être un petit coup à bâbord. Ok, t'es au contact, tu peux pousser.
C'est impressionnant, on a l'impression... foncer sur un mur de glace. Mais bon, souvent aussi, on a l'impression que c'est impossible.
Encore
et puis...
une centaine de mètres, et après, c'est bien bouché. Hein.
J'allais dire, souvent, on avance et au fur et à mesure, on trouve des chenaux d'eau libre, mais en fait, peut-être pas. On va voir.
Bonjour Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou.
Bonjour.
Nous étions sur votre bateau, le Wai, à l'été 2017. C'est vous, Emmanuel, qui étiez à la barre. L'un de vos coéquipiers du haut du mât, dans ce qu'on appelle le NITPI, était en train de vous guider avec son talkie-walkie. Et vous tentiez de vous frayer un chemin parmi les blocs de glace dans le mythique passage du Nord-Ouest. Situez-nous ce passage, où se trouve-t-il exactement?
Alors on est tout au nord de l'océan Arctique hein, et ce petit passage il permet de passer de l'Atlantique au Pacifique. Mais pour ça, en effet, il faut se frayer un chemin et on a une toute petite période dans l'été, à peu près 15 jours là, pour passer au plus dur de cette zone de glace. Ouais. Et là, dans cet extrait, on est dans le Peel Sand et quand je dis peut-être pas, en fait, on reste bloqué pendant 3 jours dans les glaces à attendre que justement le passage s'ouvre.
Mmh. Décrivez-nous, Guylain, les paysages de ce passage du Nord-Ouest.
J'adore. C'est un des plus beaux voyages que j'ai eu la chance de faire. C'est un endroit où il n'y a pas de traces de civilisation. Ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. C'est-à-dire que je parle vraiment... ce que je décris là, c'est le cœur du passage du Nord-Ouest. On appelle ça le Peel Sound. Mmh. C'est en plein milieu de l'Amérique du Nord. C'est un passage nord-sud, au nord du Canada. Et c'est l'endroit stratégique qui s'ouvre parfois au mois d'août. Et c'est là où il y a toute la glace. Et évidemment, comme il est difficile, il est difficile d'accès d'abord. Et il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de traces de civilisation, il n'y a pas de piquet, il n'y a pas de bidon, il n'y a pas de cabane de chasse ou de pêche sur la grève. C'est des paysages un peu lunaires hein, ou martiens parce que c'est beaucoup de cailloux. C'est assez rouge, jaune. Et on y voit en fait des ours, on y voit des oiseaux. Et c'est la nature qui dicte son rythme. On est au rythme de la banquise, on est au rythme de la météo. Et ça, c'est des sensations d'une force et d'une pureté qui sont rares, oui. Vraiment.
Des sensations que vous appréciez, Emmanuel et Guylain Bardoux, tout particulièrement. Vous avez un attrait pour ces régions polaires. D'ailleurs, Under the Pole 3, comme son nom l'indique, c'était la troisième expédition Under the Pole. Il y avait eu en 2010 Under the Pole 1, 45 jours au pôle Nord, durant lesquels vous aviez photographié la banquise sous toutes les coutures. Il y avait à la fois du ski et puis de la plongée déjà à l'époque. Under the Pole 2, c'était en 2014, étude de la biodiversité, là pendant 21 mois d'exploration sous-marine tout au long de la côte ouest du Groenland. Et pour Under the Pole 2, vous aviez décidé de vendre votre maison pour acquérir votre bateau, le Wye. C'est une décision facile à prendre.
Ça va peut-être te sembler bizarre, mais oui, c'est une décision facile à prendre. On avait tellement envie de partir, on avait tellement envie de réaliser ce projet. Notre chance à Guylain et moi, c'est que on a tous les deux cette même passion, on a tous les deux cette même envie, donc il n'y en a jamais un qui met le frein un peu à l'autre et le doute. Donc oui, c'était facile et c'était même un peu jouissif, j'ai envie de dire, ouais. Parce que c'est ces périodes dans ces vies qui sont rares où d'un coup, c'est la liberté totale, on laisse tout derrière nous et on part sur ce bateau, on a plus vraiment de biens matériels et c'est quand même, on est libre.
Pour cette expédition Under the Pole 3, l'ambition était encore plus grande que toutes les autres, puisque là, vous partiez pour 4 ans, 4 années d'expédition. Quel était l'objectif et le parcours initial? Parce que, comme toujours dans l'aventure, il y a eu des imprévus.
Alors, c'était une forme de tour du monde. On partait de Concarneau, direction l'Atlantique Nord, le Groenland, pour ce fameux passage du Nord-Ouest, cette route maritime qui nous permet de rejoindre le Pacifique. Puis, on a traversé le Pacifique, petite escale à Hawaï et route Polynésie. On est arrivé à Tahiti, donc en zone tropicale, pour un nouveau programme.
Ouais. Qu'on évoquera dans la suite de cette émission. Restons encore un petit peu dans le Grand Nord. Là, il y avait une part scientifique. Vous vouliez étudier la fluorescence de ces organismes qui vivent dans cette zone crépusculaire encore très peu explorée. Emmanuel Perrier-Bardoux.
Oui, il y avait une question. Ces organismes fluorescents, ils ont besoin de lumière pour la renvoyer. Et dans les zones polaires, il y a une partie du temps où il fait nuit en permanence. Et la question, c'était, y a-t-il des organismes fluorescents? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et donc, c'est un peu ce qu'on a exploré pour la première fois dans le passage du Nord-Ouest avec Marcel Coquen.
Et qui est un scientifique
affilié au CNRS et qui s'intéresse à ça et aux protéines fluorescentes. Et on en a trouvé. Pas autant qu'on en trouve dans les régions tropicales ou tempérées, mais malgré tout, on a trouvé des formes de vie fluorescentes.
Mais à quel prix? Parce que Guylain Bardoux, pour plonger dans ces eaux glacées, déjà c'est des combinaisons ultra lourdes, c'est des heures de préparation, c'est des plongées engagées.
C'est des plongées qui sont difficiles, toujours, et qui le sont d'autant plus qu'il fait froid. Donc on a un petit peu un look de bibendum Michelin, là, ouais. Parce que il faut se protéger du froid avec des grosses combinaisons. Donc on a des bottes, on a des gros gants étanches, on a des scaphandres qui sont lourds. Quand on commence à plonger comme ça, on a l'impression qu'on va pas y arriver, c'est pas possible. Et puis assez vite, on prend des nouveaux repères. Hein. On va retrouver une nouvelle forme d'aisance et finalement, presque devenir aquatique.
Et c'était des plongées, alors une ambiance particulière, faut s'imaginer. Évidemment, on est avec des icebergs, de la glace partout, des murs de glace autour de vous quand vous êtes sous l'eau. Et en plus, comme vous étudiez la fluorescence, vous éclairez tout ça avec des lumières ultraviolettes, colorées. On a vraiment l'impression d'être ailleurs, sur une autre planète, dans un autre monde.
J'aime bien cette idée de monde parallèle, en fait. D'ailleurs, ça, c'est un peu ça qui a donné ce titre de livre, Entre de monde, c'est vraiment ça. Plus on descend, plus on passe d'un monde à l'autre parce que les ambiances changent, les couleurs changent, la lumière change, les espèces qu'on y trouve changent et plus on s'enfonce, plus finalement ce monde va se transformer. Les algues proches de la surface vont disparaître, la noirceur va nous envahir et puis on va trouver des poissons qu'on voit pas ailleurs. Au loin, on va entendre des craquements d'iceberg. C'est un monde de glace, c'est un monde que j'aime profondément, qui est difficile, mais qui est rare.
Alors, votre bateau devait traverser ce monde de glace. Vous l'avez dit, Emmanuel, à un moment, il est resté bloqué par la glace. À ce moment-là, vous ne saviez pas combien de temps ça allait durer. Et vous avez profité de ce moment suspendu avec l'équipage pour observer les ours polaires.
2 heures, 300 mètres environ.
Pour l'instant, on voit rien.
2 h 300 mètres.
Mais voilà, donc c'est le branle-bas de combat, tout le monde s'est levé et cherche l'ours.
Dans le dans la banquise, là. T'as une grosse langue épaisse et après t'as un trou d'eau. Ouais, je vois. Magnifique.
Observer les ours, ça fait oublier un temps qu'on est coincé dans le pack et qu'on ne sait pas tout à fait quand on va repartir et qu'on traverse quand même un moment de doute, là. Ça rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'ours dans la région et que si on devait être amené à y passer beaucoup de temps, ce serait un paramètre à prendre en compte.
À ce moment, Emmanuel Perrier-Bardou, lorsque le bateau est prisonnier de la glace, que l'on aperçoit les ours polaires au loin, quel est le sentiment qui domine ? C'est l'inquiétude ou l'émerveillement, très honnêtement ?
Un peu des deux. On était un peu dans le doute à ce moment-là, donc il y a toujours un petit peu d'inquiétude. Mais au fond de nous, c'est aussi un peu ce qu'on aime, c'est un peu l'aventure, et c'est aussi un peu ce qu'on vient chercher. Et l'émerveillement, parce que ces ours, ils sont beaux, ils sont en bonne santé. On croise d'abord ce mâle, puis cette femelle avec ses deux petits qui sont déjà grands et qui montent, qui escaladent dans les rochers devant nous pour chercher des œufs d'oiseaux. Et ça, c'est des choses incroyables. Et puis en plus, là, on avait nos deux enfants à qui on pouvait montrer ça.
Mais c'est ça. Hein. En plus, il y avait les deux enfants. Alors, on voyait ça comme un avantage, mais ils étaient très jeunes. Alors, Tom et Robin, c'est les prénoms de vos enfants. Quand l'aventure commence, Tom a 1 an, 13 mois, c'est ça, hein, plus exactement.
Il a 1 an, et il marche pas encore, il grimpe partout et on s'arrête jamais suffisamment longtemps pour qu'il fasse ses premiers pas. Donc, il va finir par marcher en Alaska, à Nome, à l'arrivée. Et on a un médecin à bord en qui j'ai toute confiance. Et c'est pas facile, c'est rude, on a fini un peu lessivé ce passage avec les enfants. J'avais pas de nounou à l'époque, après j'en ai pris une.
Ouais. Et qui vous a accompagné, Camille, elle s'appelle, Camille, hein, vous lui rendez hommage dans le livre. Vous lui avez appris à plonger, hein, du coup elle a pas perdu son temps. Mais elle était là pour s'occuper des enfants, leur faire la classe aussi. Parce que pendant 4 ans, évidemment, Robin était en âge d'aller à l'école. Il a fallu s'occuper de tout ça. Hein. C'est à la fois une expédition scientifique et à la fois une vie de famille que vous avez dû mener de front.
C'est ça, on a jamais douté de construire notre vie professionnelle avec nos enfants. On a un peu inventé notre vie, je dis souvent. Et c'est très chouette, mais c'est aussi, comme tout parent qui travaille, bah, des enfants, c'est beaucoup de travail aussi. Donc la nounou, elle m'a permis de reprendre vraiment aussi mon activité à plein temps sur le bateau.
Ouais. Ça a jamais été un doute pour vous, Guilin, cette expédition quand même très engagée, dans des lieux où le bateau, bon, il est resté immobilisé 3 jours, ça aurait pu être plus long. Avec des enfants en bas âge, vous vous êtes pas dit... Il y a un risque ?
Non, pas comme ça. Le terrain peut être dangereux, bien sûr. Que ce soit en surface, par exemple, si on n'a pas les bons comportements avec les ours polaires, ou en plongée, même chose. Mais je suis absolument convaincu qu'on peut repousser les limites très 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 loin, à la condition de le faire en toute conscience, d'observer, de prendre le temps. Et à ce moment-là, en général, ça se passe très bien.
Eh bien, on va le prendre, le temps d'observer. Le passage du Nord-Ouest n'était que le début de l'expédition. Vous avez mis le cap ensuite sur les eaux beaucoup plus chaudes de Polynésie. Vous y avez fait de très belles découvertes. Il y a eu aussi quelques belles frayeurs. Vous allez nous le raconter. Emmanuel Perrier-Bardou et Guilin Bardou nous emmènent dans leurs aventures sous-marines. Le temps d'un bivouac cet après-midi sur France Inter.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Et là, il nous écoutait.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, Que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vide, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ai bien pas au concert. Pour entendre hurler à la mort, cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon.
C'était Compagnon de Feu Chatterton sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Regarde! Les baleines, Robin, là, 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 elles sont là à côté! Robin, regarde là-bas, là-bas, regarde!
Regarde là, juste là.
Elles vont ressortir devant le bateau, Robin.
Regarde.
Emmanuel Perrier-Bardou avec votre fils Robin dans le détroit de Bering aux portes de l'océan Pacifique, juste après avoir réussi la traversée de ce passage du Nord-Ouest. Quel moment inoubliable vous avez offert à vos enfants, Emmanuel et Guylain Bardou, en les embarquant dans cette grande expédition scientifique de 4 ans à travers les océans. Ce moment précis, il doit être gravé dans votre mémoire et aussi dans celle de Robin, Emmanuel.
Oui, il l'est. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'étais émue par les baleines. Et donc, à chaque fois que j'en vois, je réalise un peu mon rêve d'enfant. Et là, d'un coup, je le partage avec Robin. Il a les yeux qui brillent et je lui fais cette promesse de lui dire, dans un an, on est en Polynésie, je t'emmènerai nager avec les baleines à bosse.
Ouais. Ce que vous avez fait un an plus tard, après avoir traversé avec votre bateau le Wai tout l'océan Pacifique pour arriver en Polynésie, vous vous avez plongé avec les baleines et Robin.
C'est ça, un an plus tard, Guylain et moi, on est au large de Moréa et on se met à l'eau plusieurs fois avec des baleines à bosse et c'est un moment vraiment inoubliable.
Ouais. Alors Guylain, le but de cette expédition jusqu'en Polynésie n'était pas uniquement d'offrir cette plongée inoubliable avec vos enfants. Là, c'est peut-être la partie la plus importante scientifiquement de l'expédition en Polynésie, un gros programme pour étudier les coraux.
Exactement, et ce sera un tournant pour Under the Pole. C'est un programme d'études des coraux profonds, qu'on appelle les coraux de la zone mésophotique, en gros en dessous de 30 mètres, et jusqu'à 100, 120, 130, 150 et même plus, pour inventorier, en fait, essayer de voir d'abord qu'est-ce qu'on y trouve, et puis comment ils vivent, comment ils échangent, comment ils interagissent, peut-être avec des profondeurs moins importantes.
Ouais. Il y avait cette idée de zone refuge. Peut-être que à ces profondeurs, qui avaient été très peu étudiées, parce que pas le matériel, parce que pas la volonté de le faire, peut-être qu'à ces profondeurs-là, il y avait des coraux qui servaient un peu de réserve pour venir réensemencer les étages du dessus, lorsque les coraux étaient abîmés.
Voilà, c'est la théorie fondatrice de ce programme de recherche, en fait. Est-ce que les zones profondes pourraient servir de refuge aux coraux qui sont malmenés, qui sont menacés plus proches de la surface?
Avec quelques difficultés techniques, hein, tout de même, parce que pour pouvoir descendre aussi profondément, il faut appliquer des techniques de plongée sophistiquées et surtout il faut accepter des très longs paliers de décompression à la remontée. Chaque minute passée dans les profondeurs se paye en longues dizaines de minutes voire heures dans les paliers de décompression quand on remonte à la surface.
C'est ça, c'est la plongée profonde, c'est une des difficultés, mais d'un autre côté, c'est l'exploration d'une zone qui est lointaine, qui est profonde, un monde parallèle que j'aime profondément, parce qu'on y trouve une ambiance, des animaux, une atmosphère, un univers en fait qui est normalement inaccessible, ouais. Et que la technique nous permet d'entrevoir quelques instants, quelques minutes, et d'en ramener justement ces traces scientifiques ou ces témoignages qu'on essaie de partager aujourd'hui.
Un monde sauvage qui peut aussi s'avérer dangereux. Hein. Vous effectuiez des plongées exceptionnelles et un événement exceptionnel est survenu. L'un des plongeurs de l'équipe, Julien Leblon, a été victime d'une attaque de requin. La scène s'est passée, Guylain Bardou, sous vos yeux et même sous l'œil de votre caméra. Vous l'avez filmé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
On remontait de 124 mètres, précisément. On était sur la fin d'une... C'était la dernière plongée sur cette île. Ça faisait 15 jours qu'on y travaillait. Et on devait collecter les capteurs pour les remonter à la surface. Et arrivé à 80 mètres sur notre montée... Il y avait un requin gris qui avait un comportement tout à fait particulier. Donc les requins gris, c'est vraiment les requins de récif qu'on voit le plus. Ils sont très communs, ils sont connus. Et sa nage était interpellante.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait
Alors il ondulait. Il avait une nage extrêmement lente. C'était particulier. On n'avait jamais vu ça. Mmh. Et c'est pour ça que je filmais. Et finalement, Julien s'est écarté. Le requin a poursuivi son chemin, puis il a fait demi-tour et il est retourné vers Julien et ils se sont croisés en pleine eau. C'était un moment magique et au bout de quelques secondes, le requin a fait volte-face et en un éclair, littéralement, c'est foudroyant, il s'est rué sur sa tête, l'a mordu pendant un peu plus de 3 secondes. Et c'est une situation qui est extrêmement délicate parce que d'abord, on ne sait pas ce qui se passe. On est pris complètement au dépourvu. C'est foudroyant, c'est grave. C'est un accident de plongée très grave. Julien a perdu son scaphandre à ce moment-là. On a dû passer sur ce qu'on appelle une procédure de secours. C'est planifié, on est entraîné pour ça.
C'est-à-dire que le tuyau qui lui permettait de s'alimenter en oxygène a été déchiré par le requin.
Il a perdu son masque, le tuyau a été déchiré, donc il ne pouvait plus respirer sur son scaphandre principal. Et puis, il venait de se faire mordre par un requin en pleine eau, à 80 mètres de profondeur. C'est pas des situations auxquelles on peut être préparé.
D'autant que, on le disait, à ces profondeurs-là, quoi qu'il arrive, y compris ce genre d'attaque, on ne peut pas immédiatement ressortir de l'eau. Il y a ces paliers de décompression qui ne sont pas négociables. Parce que si on ressort d'un coup, alors là, c'est le sang qui se met à faire des bulles d'air, et puis on risque d'en mourir instantanément. Donc, vous aviez... à minimum 2h30 à attendre dans l'eau, avec votre coéquipier qui saigne à ce moment-là abondamment, son matériel qui est en partie déchiré, et vous savez que vous êtes, quoi qu'il arrive, à 2h30 de la surface. Ça doit paraître interminable, ça paraît assez cauchemardesque.
C'est un moment de trouble qui dure plusieurs minutes. Le temps qu'on se ressaisisse, avec Julien on remonte, on retrouve le reste de l'équipe. On était 6 donc finalement dans l'eau, passé cette attaque. On se retrouve dans la zone des 50 mètres, on lance une procédure de secours. C'est-à-dire qu'en gros on va envoyer un signal en surface qui va envoyer un plongeur de secours et des bouteilles de secours. Donc on a de quoi respirer, on a de quoi remonter en sécurité en surface. Mais il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'inquiétudes. On comprend pas encore vraiment ce qui s'est passé. Et on ne sait pas si Julien il va s'arrêter de saigner, on ne sait pas s'il ne va pas syncoper. Donc ouais, c'est préoccupant, mais heureusement la situation s'est stabilisée et on a patienté et on a pu revenir en surface.
Vous avez patienté 2h30 pour que Julien Leblon finisse par remonter sur le bateau et que l'on puisse examiner ses blessures.
Ça va.
Là, je sens bien que j'ai deux pètes.
C'est douloureux, là ?
Non, ça va. Et t'as eu l'impression qu'il y avait une compression violente de l'ensemble de la boîte crânienne ?
Non.
Tu t'es senti ?
Non, j'ai senti que j'étais tenu, mais pas compressé du tout. Tu vois. Il était trop petit pour m'attraper la tête en entier. J'ai eu la vision des films à la con, là, où t'as le requin qui arrive. Et puis, tu sais, il ouvre la gueule et tout noir derrière. Pareil, parce que j'ai baissé la tête, j'ai vu sa gueule ouverte, j'ai fait putain. Et puis après, il s'est débattu 2 secondes. Et là, comme il me tenait quand même, j'étais là. Putain, mais c'est vrai quoi. Il est vraiment en train de me bouffer la tête. Enfoiré.
Julien Leblon s'en est sorti avec une douzaine de points de suture. Il a l'air de plaisanter dans cet extrait, mais cet événement a eu, Emmanuel Perrier-Bardoux, un gros impact psychologique sur l'ensemble de l'équipe. Hein.
Oui, alors, bizarrement pas sur Julien, qui fait preuve de beaucoup de sang-froid. Sur certains d'entre nous, oui. En fait, juste pour revenir là-dessus, on était confiant, les requins en Polynésie, il y en a partout, il y a évidemment très très peu, presque pas d'accidents.
Ça arrive et jamais, hein, des plongeurs jamais, avec un incident avec un requin, c'est extrêmement...
Ce qu'on n'avait pas considéré, c'est qu'on pénétrait des zones qui sont presque pas visitées par les plongeurs, donc où les requins, qui sont des animaux qui peuvent être territoriaux, comme les requins gris, ne voient jamais de plongeurs, qu'on plonge avec des scaphandres qui ne font pas de bulles, les bulles impressionnent les requins, et qu'ils ont donc tendance aussi à venir nous voir de plus près. Et on repénètre une zone sauvage. Et quand on pénètre une zone sauvage, bah, il faut être évidemment très prudent et on a mal interprété ce comportement.
C'est-à-dire que la danse que décrivait Guilin, c'était une danse de mise en garde pour dire « vous m'embêtez, vous êtes sur mon territoire » et les plongeurs n'ont pas su la reconnaître parce qu'elle était un peu différente des danses habituelles.
Ça l'était, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, c'était notre erreur et on a appris à la reconnaître et on apprend de ses erreurs. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on en a retenu, c'était que bah il fallait être vigilant, mais pendant quelques temps, en effet, on reprend toujours l'accident la première personne. Et si c'était moi, et comment j'aurais réagi, et voilà, ça a mis un peu de difficulté.
Oui, finalement, pas tant pour celui qui l'avait vécu, c'est-à-dire Julien, mais pour tous ceux qui ne l'avaient pas vécu et qui se sont demandé comment moi j'aurais réagi si j'avais été à sa place.
Tout à fait.
Elle était là, l'inquiétude. Alors, des requins, vous en avez recroisé, ça s'est beaucoup mieux passé, hein, Guilin Bardou. Notamment, je crois que c'est dans l'archipel des Tuamotu, qu'il y a la grotte des requins, vous l'appelez comme ça, et là où il y en avait beaucoup, ça s'est bien passé.
Ouais, c'est une grotte sur l'atoll de Tikehau, plutôt à l'ouest des Tuamotu, oui. Qui est connue, dont on avait entendu parler, mais qui est très profonde en fait. C'est une grotte qui commence à peu près à 60 mètres, et sur la pente externe du récif, et qui débouche à 110-115 mètres, avant de reprendre le récif qui dévale vers les abysses. Et on y a plongé. En fait, à la toute première plongée, on rentre dans cette grotte et il y a des requins absolument partout. C'est absolument incroyable. Et on se dit, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. On va filmer ça. Là, on n'était pas équipé cette plongée-là pour faire des images. Et puis, à la plongée scientifique suivante, on prend la caméra. Je prends la caméra et je rentre dans cette grotte sur la remontée. Et là, on assiste à un spectacle qui était époustouflant. Il y avait des centaines de requins dans cette grotte. Alors, faut voir la grotte, c'est une grande grotte. Hein. C'est comme une grande bouche de métro, hein, j'ai envie de dire. On voit pas forcément la paroi opposée, mais il y avait des requins dans tous les sens. Et notamment qui passaient dans la lumière de la sortie. Et j'ai tout filmé. Sauf que j'avais oublié d'appuyer sur record, ouais. et j'étais dégoûté. En sortant de la grotte, j'ai commencé à y penser, et c'est seulement au palier que j'ai vérifié. C'était un peu écœurant.
Ça doit être écœurant, mais rassurez-vous, à la radio, l'image, c'est nous qui la faisons. Et avec la description que vous nous avez donnée, cette grotte, on l'a vue. En plus, vous y êtes retourné après, et il n'y a jamais eu un spectacle aussi beau que cette fois où vous n'avez pas réussi à tourner. Hein.
Non, on n'a jamais revu autant de requins. On y a plongé en fait une troisième fois, spécialement pour essayer de refaire ces images. Et la troisième fois qu'on y est allé, il y avait toujours des requins, mais beaucoup moins. Donc on a quand même des images, mais on n'a pas ces images avec les centaines de requins gris dans la grotte. Et pourquoi ils étaient là cette fois-là? Pourquoi ils n'étaient pas là les autres fois? Mystère. Ouais. Il faudra peut-être un jour que nous ou une autre équipe y aille et essaie de comprendre. Mais ça reste difficile, hein. C'est des plongées très profondes. C'est pas évident de travailler comme ça.
Au-delà de ces émotions fortes, en vous enfonçant dans les profondeurs, vous avez fait de véritables découvertes qui ont ému aux larmes certains scientifiques qui vous accompagnaient. Vous allez nous raconter ça dans la suite de ce temps d'un bivouac sur France Inter.
Yeah.
C'était Stevie Wonder, Beyond the Sea sur France Inter.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
8,64, 200 bars, injecte.
190 bars, injecte.
Bell out intermédiaire, 20,40, 250 bars, fermé sous pression.
270 bars, étendeur pression.
Vérification du matériel juste avant de plonger dans les eaux polynésiennes. Guylain Bardou, vous avez vécu cette scène des centaines de fois pendant l'année de plongée autour des atolls polynésiens pour aller étudier ces coraux qui se trouvent dans la zone crépusculaire lors de votre expédition Under the Pole 3. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on s'enfonce comme ça progressivement dans les profondeurs? Décrivez-nous les sensations comme si on y était.
Alors, juste après ces vérifications de surface, on bascule dans l'eau, on se regarde, on vérifie que tout va bien, on se fait un signe et on descend. Au début, la descente, elle est rapide, les premières dizaines de mètres, parce que on va chercher à rejoindre le fond, on peut être dans une zone avec du courant, il s'agit de pas trop dériver, et puis on va arriver au fond. À 40, 50, 60 mètres.
À ce moment-là, la lumière n'est plus perceptible ou...
Si. Il y a toujours de la lumière sur ces plongées en Polynésie. Par contre, les mêmes en Arctique, par exemple, ce serait pas forcément le cas. On pourrait être littéralement dans l'obscurité. Mais là, en Polynésie, la lumière, si elle décroît, la visibilité en général va augmenter. On va voir plus loin dans l'eau, passer quelques dizaines de mètres. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout, là, c'est que quand on arrive dans cette zone de 40 mètres, 50 mètres, et bien sûr au-delà, on commence à rentrer dans le bleu. Vraiment le bleu de l'océan, avec, quand on regarde vers le bas, c'est sombre, voire ça peut être noir sur un tombant. Quand on regarde vers le large, même chose, c'est très bleu, très sombre, très noir, et on continue à descendre. Le récif défile sous nos yeux, et on change d'environnement. Les coraux changent, ils s'aplatissent, ils deviennent plus rares. Des poissons viennent nous voir, ça va, ça vient. On rentre dans un autre univers.
Les coraux deviennent plus rares, venez-vous de dire, et vous avez eu envie de savoir jusqu'où il était possible de trouver ces coraux. Là, vous élaborez l'idée de faire une plongée, cette fois-ci particulièrement profonde, plus de 170 mètres de profondeur. Vous choisissez un endroit bien précis, vous choisissez l'archipel des Gambiers parce que vous dites c'est le plus éloigné, c'est le plus reculé, c'est le plus sauvage, le moins touché par l'homme. C'est pour ça que vous avez choisi cet endroit pour faire cette plongée extrême?
Non, ça c'était plus une intuition des scientifiques, je dirais, qui effectivement pensaient qu'il y avait un potentiel. Et ce qui a fait la différence, c'est que effectivement au Gambier, sur une plongée classique de notre programme à 120 mètres, il y avait plus de coraux qu'on n'en avait jamais vu. Et là, on s'est dit, oh là là, il y a quelque chose. On est allé voir une deuxième fois plus profond, et il y en avait encore beaucoup plus que d'habitude, à 140 mètres. Et comme ça, on a planifié cette fameuse plongée très profonde, à plus de 170 mètres.
Emmanuel Perrier-Bardou, quelle est l'ambiance à bord du bateau lorsque l'expédition décide de faire une plongée plus... engagé, hein. C'est la façon pudique chez les explorateurs de dire que ça va être dangereux et qu'il y a du risque. Une plongée plus engagée que les autres où on va descendre à plus de 170 mètres de profondeur.
Oh, moi, je me souviens bien du matin de cette plongée parce que, en fait, on prend le petit-déj en déconnant un peu comme d'habitude, mais on voit bien que tout le monde est un peu ailleurs, un peu tendu et que les blagues, elles tombent un peu à plat et voilà. Et puis, en fait, on arrive à un briefing qui est super détaillé où on est quand même tous très concentrés. Et c'est pas facile parce que eux, ils doivent affronter sous l'eau une certaine incertitude, ils veulent avoir un peu de marge de manœuvre. Et nous, en surface, on veut connaître exactement le déroulement de la plongée pour savoir à partir de quel moment on est censé s'inquiéter s'il se passe rien ou pas. Donc on se met d'accord et puis après, c'est parti. Quand on est dans l'action, ça va mieux.
Dans l'action, pour vous, Guylain Bardou, donc vous descendez le long d'un tombant, une sorte de falaise aquatique. Vous avez quoi? Une lampe de poche pour essayer de voir jusqu'où vous allez pouvoir trouver encore... Alors là, on n'est plus sur des grands récifs de corail, hein. C'est vraiment des petits éléments que vous cherchez sur la paroi.
C'est des petits coraux, effectivement. Plus on va descendre, plus ils vont se réduire en taille, et puis moins il va y en avoir. Et effectivement, sur ce site, on passe dans de la verticalité à peu près à 100 mètres de profondeur, et on se retrouve pas dans l'obscurité, mais dans une très grande pénombre, mmh. avec peu de couleurs. C'est vraiment très très sombre. On a des phares pour éclairer autour de nous. Et c'est un moment qui est magique, parce que à un moment donné, à 173 mètres, on se retourne, on décide de s'arrêter là, on regarde devant nous, il y a un corail, on le photographie, on s'en saisit, mmh. On le met dans un sac de prélèvement, et on prend encore quelques secondes pour contempler cet univers qui est rare, qui est complètement hors norme et qu'on aborde très 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 rarement. Oui.
Vous entamez donc une lente remontée avec ces paliers de décompression de plusieurs heures. Avant d'être arrivé à la surface, vous envoyez à l'aide d'un ballon gonflé d'air les échantillons prélevés à 171 mètres. Sur le bateau, le reste de l'équipe, dont le grand spécialiste des coraux Michel Pichon, découvre cet échantillon que vous envoyez alors que vous êtes encore au fond de l'eau.
C'est combien ?
171.
Michel ? Alors ?
Alors voilà, c'est l'échantillon de corail le plus profond qui ait jamais été récolté dans le monde. On a repoussé la frontière des coraux récifaux et c'est pour nous très important parce que ça indique que la limite inférieure du peuplement mésophotique est nettement plus profonde que ce qu'on pensait.
C'est extraordinaire. Je suis très émotionnel, ça fait presque 60 ans que je travaille sur les coraux. Vous m'excuserez, ça paraît.
On est super heureux de partager ça avec toi, Michel. Ça nous rend super heureux et fiers.
La voix étranglée par l'émotion de Michel Pichon, grand spécialiste des coraux. Il le dit, ça fait 60 ans qu'il travaille là-dessus. Et avec ces coraux jamais prélevés à une telle profondeur, vous l'avez scotché, vous avez réussi à le surprendre, Emmanuel.
Ouais, Michel, c'est formidable parce qu'on a à bord à ce moment-là peut-être un des plus grands spécialistes au monde de la taxonomie, hein, du squelette des coraux. Il a commencé avec Cousteau, il a fait tellement de choses et puis là, il pleure devant cet échantillon, devant moi, parce qu'en fait, il pensait pas de sa carrière faire une telle découverte et voilà, c'était vraiment vraiment un moment hyper intense avec lui et un bon souvenir. Et quel bonhomme.
Ouais, quel bonhomme. Mais c'est-à-dire qu'avant cette plongée, on ne savait pas, il n'y avait aucune preuve que des coraux pouvaient pousser à une telle profondeur, nulle part ailleurs dans le monde, Guylain Bardou.
C'est surtout qu'il y avait peu d'informations, peu de connaissances en fait, sur la diversité corallienne profonde, sur les espèces qu'on allait, jusqu'à quelle profondeur elles pouvaient vivre, et espèce par espèce, parce que c'est pas les mêmes qu'on a trouvées à 172 mètres, d'autres qui vont s'arrêter à 80, 90 ou 120 mètres. Et quelles interactions ces différentes espèces vont avoir avec leurs congénères, par exemple, moins profonds. Et en fait, c'était ça, tout l'enjeu de ce programme scientifique, ce programme Deep Hope, c'était de mieux comprendre la vie de ces coraux profonds.
Alors, vous le disiez, hein, Emmanuel, Michel Pichon a travaillé avec le commandant Cousteau. Vous avez l'impression d'écrire un petit peu la suite de cette histoire, de vous inscrire dans la lignée de ces grandes explorations sous-marines du commandant Cousteau?
J'espère. Moi, c'était mon rêve quand j'étais petite, hein, de faire partie de l'équipe du commandant Cousteau. On a créé notre propre équipe. Mais oui, clairement, il y a une descendance.
Oui, il y a une descendance. Dans les années 1960, vous n'étiez pas nés, hein, tous les deux. Pour faciliter l'exploration des fonds marins, Cousteau a imaginé une série de projets d'habitat sous la mer, baptisé Précontinent. En 1963, pour le projet Précontinent 2, son équipe avait installé une maison sous-marine au fond de la mer Rouge, pour explorer là aussi des récifs coralliens. Et Cousteau faisait des petits films, journal de bord, pour raconter comment ça se passait dans cette maison sous-marine.
Le commandant Jacques-Yves Cousteau vous donne des nouvelles du village sous la mer. Journal de bord de la Calypso en mer Rouge.
Dans la grande pièce de la maison principale, par 10 mètres de fond, au récif de Chabrumi. Dans cette grande pièce, nous sommes assis autour de la table et nous regardons deux des trois écrans de télévision qui sont allumés.
Alors une bonne mercure sur la vingt pour qu'on puisse voir le fond.
Est-ce qu'on peut piquer du nez un poil de plus? Les poissons docteur verts, là. Les beaux poissons docteur verts et noirs.
Bon,
alors? Alors vous voyez la vermine de petits poissons?
Oui. Allez, maintenant il faut aller plus profond.
Oh, les belles gorgones! Oh,
c'est beau, c'est fou, hein?
C'est incroyable. Moi je n'ai jamais eu autant aussi profond. Hein.
Ah non.
Guylain Bardou, vous aussi, alors sur un autre ton, vous avez tout au long de votre exploration publié des petites vidéos sur Internet pour qu'on suive votre expédition. Là, c'était en 1963, évidemment, le ton n'est pas le même. Mais vous dites quand même dans votre livre que vous avez longtemps eu l'impression d'être né trop tard, d'avoir raté ce moment des pionniers où on testait tout, justement.
Ouais, c'est un sentiment que j'ai eu, en tout cas à une époque... Parce que ces années 60, 70, 80, ça a été les grandes années de l'exploration sous-marine et spatiale, je le dis souvent aussi, où on a tout testé, sans limite, hein, sans limite de budget, parce que aussi, comme c'était une nouvelle exploration avec un fort potentiel de découverte pétrolière aussi, et en fait, c'est ça qu'on ne sait pas toujours, mais c'est que finalement, c'est le pétrole qui a financé cette exploration sous-marine à l'époque. Mais donc, il y avait des moyens colossaux. Et c'est marrant d'entendre cette petite vignette du commandant Cousteau. Effectivement, c'est le témoignage d'une autre époque, mais finalement avec un parallèle très fort avec ce qu'on a pu faire. Parce que vivre sous la mer, finalement, que ce soit dans une petite ou une grande cabane, ça reste une expérience très singulière.
Et oui, parce que vous avez un peu poursuivi ce rêve de vivre sous la mer pour prolonger l'exploration sous-marine. L'expédition Under the Pole 3 que vous dirigez, hein, l'un et l'autre, Guylain et Emmanuel Bardou, avait aussi pour but de tester une capsule pour pouvoir rester jusqu'à 72 heures sous l'eau. Vous allez nous raconter dans un instant comment vous avez vécu sous la mer dans cette minuscule capsule. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache.
You live for the lies. I can't figure out, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
C'était Célassou sur France Inter dans le temps d'un bivouac qui chantait Hooray, et la programmation musicale est signée Valentine Chédebois.
Allô, Gallo Guilin, est-ce que tu m'entends?
Oui, allô?
Salut, comment ça va dans la capsule?
Eh ben écoute, ça se passe bien, ça y est, on s'apprête à passer notre première nuit sous la mer.
Moi, à ta place, je sais pas si je dormirai sur les deux oreilles, mais je vous le souhaite.
Là, on se balance légèrement, il y a un tout petit peu de courant, là, tu vois, avec les vagues aussi, on sent donc...
Et il n'y a pas trop d'appréhension avant la nuit?
C'est quand même un peu impressionnant, mais pas trop, voilà. C'est la première fois de ma vie où j'ai le temps en plongée. Je suis en t-shirt et en short, par 20 mètres de fond. Là, je réalise mon rêve.
Guilin Bardou la voit transformée par l'hélium dans sa capsule sous-marine pendant que Emmanuel Perrier-Bardou vous preniez de ses nouvelles depuis la surface. C'était cet extrait précisément, la toute première nuit dans cette capsule que vous aviez imaginée puis construite. Elle ressemble à quoi cette capsule, Guilin ?
À une tente sous-marine.
Enfin, une tente sérieusement cylindrique.
Ouais,
hein.
C'est ça. C'est un cylindre, en fait, en aluminium qui fait 2 mètres de long et 1,5 mètre de diamètre. Et à l'extrémité de ce petit cylindre, on a mis deux demi-sphères, deux dômes transparents qui sont comme des grands hublots sur l'océan.
Ouais. Alors, on a mis une photo et même plusieurs de cette capsule sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient se la figurer. Elle est arrimée au sol par deux ballasts, telles les sardines de votre tente. Sous-marine.
Oui, c'est ça. Deux ballasts qui font en tout un peu plus de 6 tonnes hein, quand même. Parce que la capsule, elle nous emmène vers le haut. Elle a tendance à flotter puisqu'elle est remplie de gaz. Et donc, effectivement, il faut l'ancrer au fond de la mer pour pouvoir la stabiliser à 20 mètres de profondeur.
Et à l'intérieur, c'est très réduit. Hein. C'est quelques mètres cubes seulement. Alors, la première nuit, ça s'est passé comment dans cet espace très exigu?
Ça se passe un petit peu comme dans une tente quand on fait du camping par exemple en montagne et qu'on peut pas trop sortir, c'est-à-dire qu'on est avec deux collègues, deux plongeurs et on a chacun sa banette qui sont repliables, donc en journée on les transforme, mais là la nuit on est un peu dans le sens de la longueur de la capsule, chacun son lit, ouais. Chacun son organisation, on a mangé puis
mais qu'est-ce que vous avez vu par le hublot?
En s'allongeant, on met la tête dans le hublot et là on contemple, on allume les phares. Les animaux du jour sont allés se coucher, les animaux de la nuit sont sortis, on voit passer une tortue, on voit passer parfois un requin, et puis c'est une vie planctonique fantastique qui s'anime devant les phares avec tous les prédateurs qui viennent manger une larve ou en aspirer une autre.
Et puis pendant la nuit, à un moment vous vous réveillez bercé
par une baleine, par une baleine à bosse. Alors ça a été magique. On l'a tous vécu à plusieurs reprises, mais la première fois, la première nuit, on l'a entendue une heure à l'avance. Elle était très très loin sur le récif, probablement plusieurs kilomètres, et un mâle chanteur qui s'est rapproché, qui s'est rapproché, qui s'est rapproché, et au bout d'un moment, elle était à quelques mètres de la capsule. On la voyait pas parce que c'était dans le noir, mais l'intensité du son faisait vibrer la capsule, et on savait qu'elle était là. Et puis elle a continué son chemin et elle est partie. Et un peu plus tard, on s'est rendormi. C'est une expérience hors norme. On vivait sous la mer pour la première fois. On dormait sous la mer et il y avait une baleine à bosse à côté de nous. Ouais.
Emmanuel Perrier-Bardou, vous aussi, hein, vous avez même séjourné 72 heures dans cette capsule. Quel souvenir gardez-vous? Vous dites que c'est un voyage inoubliable, que vous avez vécu une sorte de voyage immobile, hein, parce que la capsule ne bouge pas, et pourtant un voyage incroyable.
Ouais, un voyage inoubliable et dont les sensations sont vraiment difficiles à exposer parce que elles ne ressemblent à rien de ce qu'on vit sur la Terre. Je pense que ça peut s'apparenter à un petit voyage dans l'espace également. Mais voilà, moi j'avais de l'appréhension au départ et l'appréhension elle est partie au moment où j'ai pénétré dans la capsule parce que d'un coup en fait toute la fascination pour ce qu'on vit, ce qu'on observe remplace l'appréhension qui était un peu là.
Ouais. Vous dites aussi que vous avez eu l'impression d'en apprendre plus pendant ces 3 jours sur l'organisation du récif, la façon dont les poissons interagissent entre eux qu'en 15 années de plongée.
Oui, tout ce qu'on a l'habitude de voir par bribes, en fait, pendant nos plongées, d'un coup, on le voit dans le temps, on le voit en étant aussi de manière totalement discrète. Les poissons ne font plus attention à nous, ils oublient notre présence. C'est nous qui sommes dans l'aquarium. Et là, d'un coup, on peut observer sans limite de temps comment ça se passe, qui nettoie qui, comment on se reproduit, la prédation, quand est-ce qu'ils ont peur, qui va se coucher, qui se lève. Et ça, c'est une ville, en fait, qui s'anime devant nous.
Ouais. Vous avez tout de même réussi à dormir dans cette capsule, Guylain Bardoux ?
Ah oui, on dort heureusement parce que on y passe quand même plus de 3 jours. Ouais. Maintenant, on peut pas dire qu'on y dorme franchement très bien comme on pourrait dormir dans son lit.
Vous avez fait des rêves étranges.
On a tous fait des rêves étranges et moi, j'en ai fait un très particulier qui m'a vraiment interpellé. Je pense que ça doit être lié à cette baleine que j'ai observée, parce que en me réveillant, j'avais rêvé qu'un baleineau, en se frottant sur la capsule, l'avait emporté vers le fond. Et en fait, en me réveillant, je me rendais compte que c'était justement un baleineau qui se frottait à la capsule qui est blanche, comme si elle se frottait au ventre de sa mère. Ça a été mon rêve. Pourquoi ? Parce que c'est l'hélium.
Câlin avec un baleineau. Emmanuel Perrier-Bardoux, vous avez un peu broyé du noir à un moment dans cette capsule, parce que vous n'avez pas pu vous empêcher de penser au dernier rapport du GIEC qui prévoit la disparition des coraux pour 2050. Et vous réalisez qu'en 2050, Tom et Robin, vos deux enfants qui vous accompagnaient pendant toute cette exploration, auront 38 et 34 ans et que eux, selon ce rapport, ils n'auront peut-être plus de coraux à observer dans les océans.
Ouais, je suis passée par un peu beaucoup de phases d'émotion dans cette capsule qui était toute intense et le dernier soir, enfin la dernière nuit, je me suis réveillée à 4h du matin et je voulais en profiter à fond, donc j'étais dans ce dôme en train de regarder autour de moi et c'était merveilleux ce qui se jouait sous mes yeux. Et en même temps, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on observait du blanchissement corallien et on venait d'avoir ce rapport du GIEC et c'était une grosse claque parce que d'un coup tout ce que nous on observait, je me demandais vraiment si dans le futur nos enfants et puis à travers Robin et Tom, c'est tous les autres enfants pourraient voir cette vie s'épanouir aussi.
C'était aussi le but de vos expéditions, alerter, sensibiliser. Il y avait un volet pédagogique dans cette expédition Under the Pole 3.
Il y a toujours, parce qu'on fait ce travail sur le terrain, on continue ce travail sans relâche à terre, en particulier sur le territoire breton. On est en train de monter une caravane Under the Pole pour aller à la rencontre des classes, aller à la rencontre des écoles. Pour moi, l'espoir aujourd'hui est dans l'éducation et dans la sensibilisation.
Alors, il devait y avoir une suite dans Under the Pole 3, le troisième volet. Normalement, vous partiez pour la Patagonie et puis vous finissiez sur la péninsule antarctique avec cette capsule. Ça aurait été le bouquet final. Mais l'épidémie, le Covid est venu interrompre vos rêves. Vous avez donc prolongé les explorations en Polynésie. Il y a pire comme punition de se retrouver en Polynésie pendant le confinement à faire des plongées. Aujourd'hui, vous êtes revenu à Concarneau. J'imagine que vous êtes déjà en train de penser à Under the Pole 4, Guylain.
Under the Pole 3 vient de se terminer. Effectivement, on est tourné vers l'avenir. Ce sera un grand programme, ça va durer 10 ans.
Ah oui.
Ce sera dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, qui a démarré en 2021 et qui se terminera en 2030. On va retourner dans la zone mésophotique, mais cette fois-ci, ce sera pas que pour étudier les coraux. On va s'intéresser à ce qui vit sous la mer, dans cette zone profonde.
Donc mésophotique, de moyenne lumière crépusculaire entre 30 et 150 mètres. Vous viendrez nous raconter, tous les deux ?
Avec plaisir.
Guylain Bardoux et Emmanuel Perrier-Bardoux, votre livre qui allie photos et textes pour raconter ces 4 années de plongée de l'Arctique au Pacifique s'intitule Entre deux mondes. Il paraîtra jeudi prochain, le 21 octobre, aux éditions Ulmer. Et puis je signale aussi que le Festival du film d'aventure de La Rochelle vous consacrera une grande rétrospective en présentant plusieurs de vos films dont on a entendu certains extraits dans cette émission. Ce sera le mardi 16 novembre. Nous allons mettre toutes les informations sur le site de l'émission. Un grand merci à vous, Emmanuel et Guylain Bardoux. Et bon retour à Concarneau.
Merci Daniel.
Merci, au revoir.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli Radio France. Pour nous adresser un message, eh bien, il y a la page Facebook du temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.